10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et oui, le retour de l'islam au présent sur Beurre FM le samedi matin entre 10h et 11h con l'imam Abdelali Mamoun. Qu'est-ce que l'imam Abdelali?
Oui, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être avec toi encore une fois, Philippe, pour relancer cette fin d'année scolaire, on va appeler ça comme ça. Et pour, Inch'Allah, apporter encore plus d'éléments qui permettent aux croyants, à nos co-religionnaires, de parfaire et d'augmenter leur connaissance et leur élévation spirituelle. C'est ce qui est très important pour nous.
Bon, alors, qu'est-ce los moutones?
Qu'est-ce
los moutones?
Los moutones.
Los moutones, grassos.
Grassos. Alors, c'est vrai, j'étais en Espagne.
Oui.
Muchas gracias.
On a parlé de vous la semaine dernière.
Muchas gracias.
On a parlé de vous. On a dit que vous étiez con los moutones, bien grassos.
Voilà, moutones, por favor, very beautiful, very good, very delicious.
Ah, il ne faut pas les manger maintenant. Ils sont pas assez gros.
Ah non, ils ne sont pas assez gros.
Ils sont trop maigres.
Non, mais ça va, ils seront prêts pour l'Aïd, Charles, effectivement. Charles, il y aura d'autres émissions.
Vous les avez un peu mangés? Enfin, vous leur avez donné à manger ou...
Même pas. Ils ont tellement à bouffer là-bas, dans leur truc. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ne manquent de rien.
Vous leur avez donné des prénoms? Comment ça s'est passé?
Alors, comme il y en avait 6000, il aurait fallu un gros livre de prénoms pour appeler tout le monde d'un nom. Ça aurait été un peu compliqué, Philippe.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu peur face à un prédateur comme vous?
Un petit peu, puisque même en arrivant sur le troupeau, tout le monde s'écarte devant moi. Les animaux, tous les moutons.
Ils disent, tiens.
Ils se sauvent, ils savent qu'ils vont passer.
Le padré moutonnesse.
Ils vont passer au four. Alors là, ça va être une autre histoire.
L'imam Abdelali était parti voir le cheptel la semaine dernière.
Ouais, c'est vrai. On m'a invité d'aller avec une équipe qui s'appelle Allo Halal. On en a parlé déjà pendant le Ramadan, qui propose, Inch'Allah, pour l'Aïd, pour ceux qui ne savent pas comment s'assurer de l'abattage rituel et de respecter cette injonction et cette recommandation prophétique, eh bien, c'est donc cette association qui propose de se substituer pour faire l'abattage rituel à la place et puis d'apporter, bien sûr, la carcasse avec même les abats, la tête, les pieds, les pattes de mouton, etc.
Dans c'est pas un vous qui allez les dépiauter, les 6000.
Non, c'est dans un abattoir réglementaire, puisque la directive européenne des droits de l'homme, dans la directive européenne, pas des droits de l'homme, mais la directive européenne des affaires sanitaires, notamment, impose l'abattage rituel ou l'abattage, tous les abattages dans des abattoirs, avec une certaine contrainte, on va dire, sanitaire et hygiène.
Oui, mais bien sûr, il faut encadrer l'abattage.
En plus, c'est la présence d'un vétérinaire, pour s'assurer que la chair n'est pas contaminée, qu'elle n'est pas malsaine, etc. Donc, tous les moutons doivent être surveillés par un vétérinaire, en plus d'être abattus par un sacrificateur qui soit homologué par l'État. Voilà, donc les choses se font bien, alhamdoulilah, ça s'organise. Il y a plusieurs associations qui le font. Je ne vais pas donner les noms des autres, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la pub pour celle que je bichonne, que je sponsorise, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Et donc, c'est Allo Halal, Allo A2LO, Halal H-A-L-A-L, donc L-A-L. Et vous allez avoir donc toutes les propositions qui sont faites, y compris ceux qui ne veulent pas récupérer la carcasse et veulent faire un don directement, par exemple, une association comme Cœur de...
Au cœur de la précarité.
Au cœur de la précarité, de Épinay. Non, il y en a deux. On y travaille avec deux seulement. Voilà. Il y a la mosquée de Garges qui s'occupera aussi de redistribuer aux nécessiteux cette chair, Inch'Allah, dont les propriétaires ne voudront pas récupérer et faire don aux pauvres. Voilà, ça c'est une...
Voilà, c'était votre
On
activité.
Aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler
c'était,
plus
c'était
tard.
Pourquoi vous n'étiez pas là la semaine dernière?
Tout à fait.
Vous êtes parti en Espagne. Bien, Imam Abdelali, donc on repart...
J'ai eu la chance de visiter Echbilia, et c'est Séville, Alcazar, le palais d'Alcazar, c'est super beau, magnifique. On a été aussi à Madrid... Santiago, Bernabéu.
C'est pas à côté non plus.
Ben on a fait la distance, on a fait le trajet, presque 500 km entre Séville et Madrid. On l'a fait en voiture, à une vitesse, je te raconte même pas. Alors, c'est pas moi qui conduisais, heureusement. Parce que c'est une voiture de rallye qu'on a pris. Voilà, c'était impressionnant quand même. On avait des chauffeurs.
C'est-à-dire que les imams en week-end, ils ont quand même une vie.
Les deux imams, ils n'ont pas conduit. Les deux imams, ils étaient, eux, conduits par.
Mais ils laissaient faire.
Ah bah, tu veux quoi? Tu veux donner un coup de bâton sur la tête?
Tu fais un rappel à la loi?
Ouais, bah, la loi, c'est la loi espagnole, là. C'est pas la loi française. En tout cas, on n'était pas en France, donc on peut pas se...
D'accord, mais alors, il roule à quelle vitesse, les Espagnols?
Bon, il était autour de 200. On a fait le trajet
de la
500 bornes.
Je serais jamais allé de la vieille.
En 3 heures environ. En 3 heures au lieu de.
C'est non, mais ça fait
un vrai bolide qu'on
truc.
Avait. En plus, c'était pas des. C'est des. UCV. Comment ça s'appelle?
Un SUV.
Un SUV. De, ouais. Voilà.
Ouais. Ouais, c'était pas le Touran.
Ah non, c'était pas la voiture.
C'était pas le Touran de 1982 d'Imam Abdelali.
Il y avait des chevaux dans le moteur. Non, ça, c'est sûr.
Ah non, mais ça fait peur. Bon, enfin bref. Les moutonnaises vont bien.
Voilà. On a eu le temps de freiner avant de leur rentrer dedans. On a eu le temps de freiner.
Bon, j'aurais trop aimé être une petite souris et être dans la voiture pour ça. Vous écoutiez
un
quoi?
Hamster?
Non, qu'est-ce que vous écoutiez dans la voiture?
Rien, on discutait.
D'accord.
Le gars, en plus, il parlait à 200 à l'heure, il parle en même temps. Je te raconte. En plus, les routes d'Espagne, c'est pas les autoroutes françaises, hein, je peux te dire. C'est tout cabossé, hein.
Mais ouais, jamais de la vie, je serais parti avec vous. Mais ouais, jamais. Bon, d'abord, j'étais pas invité.
Non.
Mais en plus.
Non, mais la voiture, ce sont des voitures sûres avec des énormes pneus.
Mais
tu
ouais,
vois,
mais
c'est
ça. Mais non,
les SUV, c'est des grosses.
Mais à 200 km/h.
Ouais, on était à 200. Je te
promets. La prochaine fois, vous passez pas à manger tout de suite. Hein. La prochaine fois, vous restez ici. Si c'est pour aller rouler à 200 km/h sur des routes espagnoles, vous restez ici. Déjà, Koubled, c'est compliqué, mais non. Bien, alors, Imam Abdelali, pourquoi le prophète était-il surnommé le prophète de la miséricorde?
Parce qu'il est d'abord la miséricorde de Dieu. Dieu dans le Coran dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Nous t'avons envoyé que pour être une miséricorde pour les mondes. Et d'abord, la miséricorde de Dieu qui se manifeste à travers le prophète, bien entendu, elle se manifeste à travers la prophétie du prophète, et non pas la personne en soi. Bien sûr, un petit peu quand même, puisque le prophète avait été quand même une personne assez exceptionnelle de par son comportement des plus nobles, le plus noble de tous. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Hein, le prophète était quelqu'un qui était doté de noblesse de caractère les plus immenses et les plus importantes que puisse exister sur Terre. Donc c'est un véritable... c'est la gentillesse, la générosité qui marchait sur pattes. C'est ça le prophète, alayhi salam. Donc d'abord, c'était en soi un être humain qui avait une personnalité des plus miséricordieuses qui puisse exister sur terre. Et donc aussi dans son rôle, dans sa mission de prophète, il est une miséricorde parce que la prophétie est en soi une miséricorde. Déjà, elle vient soulager les humains de la contrainte de la sharia, des lois islamiques, des lois divines, on va dire ça comme ça, que Dieu avait révélé à Moïse, qui étaient des lois très drastiques, même aujourd'hui on le voit dans la communauté juive, ceux qui ont décidé de rester juifs, et donc qui sont de confession juive, eh bien ont des restrictions alimentaires, vestimentaires, etc., qui sont assez drastiques, peut-être même plus que celles des musulmans. Notamment au niveau alimentaire, hein, ils peuvent pas mélanger les produits laitiers avec les viandes, etc. Donc c'est assez contraignant. Un cheeseburger, c'est pas possible chez les juifs, alors que chez les musulmans, il y a pas de difficulté. Donc Dieu est venu soulager. Donc il y a même un verset dans lequel Dieu dit dans le Coran qu'il est venu alléger et soulager l'humanité des lois qui avaient été prescrites au peuple d'Israël. Qui étaient des lois beaucoup plus drastiques. Donc déjà, il y a cette souplesse à ce niveau-là. Et pour ce qui est des chrétiens qui ont carrément par laxisme rendu tout licite, eh bien Dieu est venu quand même par rééquilibrage imposer quand même certaines règles que les chrétiens eux se sont autorisés. Par exemple, le fait de consommer de la chair de porc, qui était une interdiction chez les chrétiens. Dans le christianisme, la chair de porc était interdite. Mais après, c'est Benoît au 5e siècle de l'Égypte, Saint Benoît, qui a commencé à élever des sangliers, et petit à petit, ces sangliers se transformaient en cochons de génération après génération, et on a commencé à élever le porc partout, parce que c'était un animal facile à domestiquer, etc. Mais à l'origine, la chair de porc, la chair de sanglier, bien entendu, sont des chairs proscrites, interdites, parce que ce sont des animaux omnivores qui aussi consomment de la chair, et toute chair nourrie de chair est illicite. C'est ça la règle. Toute chair nourrie de chair est illicite, est interdite. Puisque la chair, pour qu'elle soit licite, il faut qu'elle mange des végétaux, des grains, par exemple du foin, etc. Tous les animaux herbivores sont halal. Tous les animaux carnivores ou omnivores sont illicites. Le cochon fait partie de ces animaux qui ont été domestiqués et qui sont omnivores. Alors pourquoi le Coran ne parle pas des ours? Parce qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui domestiqué des ours ou des loups ou des renards ou des félins, etc. Ces animaux sont restés sauvages. Alors que le seul omnivore que l'on consomme pour sa chair et qui est un animal omnivore, c'est le porc. C'est pour cela que Dieu en a parlé dans le Coran. Parce qu'on se pose la question, mais pourquoi le porc? C'est pas la raison parce que le porc il est spécifiquement impur par rapport aux autres. Il est tout autant impur que le chien. Tout autant impur que le loup ou les félins. Et vous posez la question à un non-musulman, tu mangerais du chien? Comme en Chine, ils le font tranquillement, manger du chien, c'est pas un problème. Ou du chat, ils vont dire, ah, du chat, du chien, pas possible. Mais pourquoi du chat, du chien, ça, tu trouves ça écœurant? Et la viande de porc, tu trouves ça normal? Donc l'islam est venu à la fois rééquilibrer les choses entre les règles divines révélées à Moïse qui étaient drastiques, trop drastiques, et les règles chrétiennes qui sont, après le temps, devenues trop laxistes. Voilà. Ça, c'est une des raisons. Le prophète aussi, comme le dit dans un verset du Coran, était quelqu'un de soucieux du bien-être de sa communauté. Il y a même un verset Dieu qui est dans lequel il dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Il vous est parvenu un prophète parmi vous. Donc déjà, le fait que ça soit pas un homme étranger ou un ange ou une créature bizarre ou un personnage surnaturel, mais un homme tout à fait ordinaire qui émane de la société elle-même, eh bien montre bien là à cela une preuve de la miséricorde de Dieu, que Dieu ne va pas vous imposer quelque chose de surnaturel ou qui dépasse vos capacités humaines. C'est un être humain comme vous qui est votre modèle et qui est donc de ce fait une miséricorde, parce que je ne vous demanderai pas plus que ce que vous êtes capable de faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'a combat à quiconque que seulement ce qu'il est capable de faire. Il dit donc dans ce min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Qui est affligé par le mal que vous pouvez subir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ressent de l'empathie. C'est un prophète qui vous transmet cette valeur qu'on appelle l'empathie. C'est quelqu'un qui ressent la souffrance des autres. Azizun alayhi ma anittum. Il est soucieux de ce qui peut vous arriver de mal. Il espère, il est harisun alaykum. Là, regardez le verset suivant, la phrase suivante. Il dit gardien et garant pour vous, c'est-à-dire qu'il surveille votre bien-être, il s'assure qu'il vous arrive rien de mal. C'est-à-dire que même la pratique de la religion, si elle met en risque, en péril la vie ou la santé de quelqu'un, eh bien il devient exempté de cette pratique. Regarde le ramadan, on a parlé du ramadan. Le voyageur, le malade sont exemptés. La femme enceinte ou la femme qui allait, elle est exemptée. Le vieux chibani qui peut pas jeûner, il est exempté. Le jeune pubère qui vient d'être pubère mais il est encore tout chétif, il est exempté. Toutes les personnes qui sont dans l'incapacité physique et qui mettent en péril leur santé de jeûner, eh bien sont exemptées. Prier, prier d'accord, certes. Si tu peux pas prier debout. Il y a une dame qui me dit, ouais mais moi je peux pas prier, j'ai arrêté de prier parce que je peux pas prier debout. Qui t'a dit d'arrêter de prier? Prie assise. Je peux pas prier assise. Prie allongée. T'es alité. Prie allongée. Prie avec tes yeux. Prie même avec tes yeux. Mais ne t'exempte pas de prier. Ça, par contre, c'est indispensable. On en parlera tout à l'heure, Inch'Allah, de la prière. Mais, cette question, des règles islamiques, c'est toujours associé à le fait de promouvoir la facilité et de s'éloigner de la difficulté. Comme le disait le verset du Coran, le hadith du prophète, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Ça veut dire que faciliter ne rendez pas les choses difficiles et annoncer la bonne nouvelle et ne soyez pas repoussant, répugnant, réticent de votre religion aux gens, car vous ferez à ce moment-là l'erreur d'être un obstacle. Yasuduna an sabilillah, sur le sentier d'Allah, sur le chemin d'Allah aux gens. Il faut toujours faciliter les choses et non pas les rendre difficiles. Donc la règle, toujours des fuqaha et des ulama de la sharia, c'est innal mashaqqata tajlibu at-taysir. La difficulté impose la facilitation. Impose la facilité. À partir du moment où ça devient trop difficile, eh bien, la règle, c'est que tu vas faire ce qui est plus facile. J'ai dit bien trop difficile. Physiquement, pas simplement pour faire plaisir aux uns aux autres. On parle de vraiment de difficultés réelles, avérées. et pas supposer parce que ouais moi juste pour les gens ou je sais pas quoi. Il y a voilà certains qui vont s'autoriser des choses qui ne le sont pas. Donc c'est important de savoir la limite et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla quand il nous dit guide-nous, il nous apprend à l'implorer de nous guider, de le guider vers le droit chemin. Il nous précise quel est ce droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Mmh. Il n'a pas dit simplement ihdina as-sirata al-mustaqim. Mais il a précisé qu'est-ce que c'était que le chemin droit, le chemin al-mustaqim. Il dit c'est le chemin de ceux. Donc ceux, c'est quoi? C'est qui eux? Bah, ce sont des hommes, d'autres hommes qui sont vos modèles. Des gens qui ont étudié, qui connaissent le contenu, la compréhension. Et vous avez, alhamdoulilah, à chaque fois et chaque génération, une génération d'imams qui sont là. Moi je suis content de voir des nouveaux imams avec des barbes blanches, des barbes noires là, qui prennent la relève après nous. Maintenant que j'ai la barbe blanche, c'est vrai que ça veut dire mais et t'as l'impression de dire mais à qui je laisse cette religion? Bah, alhamdoulilah, de voir des intervenants, des conférenciers, des chercheurs, des spécialistes en sharia, et qui eux aussi ont on va dire récupéré le relais de cette religion et vont pouvoir la transmettre et faire jouer ce rôle de ladina an'amta alayhim, de ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, pour qu'ils montrent le modèle du droit chemin à suivre. Wallahu a'lam.
La relève arrive. Imam Abdel Ali, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Avec l'imam Abdelali Mamoun, j'ai pas compris le geste que vous m'avez fait, imam Abdelali. Vous montrez quatre doigts, ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire quatre étoiles.
Quatre étoiles?
Voilà, l'hôtel où on était à Madrid.
Ah, mon Dieu. Ah,
c'était un bel hôtel.
On
a été bien accueillis. On était bien accueillis, franchement, c'était bien fait.
C'était grand luxe.
Ouais, voiture de location, tout va la totale. Non, c'était bien fait.
Il y avait l'os moutonnaise.
Et l'os moutonnaise, le mérinos.
Mais il y a beaucoup de jambon hein, quand même en Espagne. Dans cette... En fait, vous savez que c'est la région du jambon.
Eh bien, je te promets, je n'ai pas vu un seul porc. C'est j'ai vu vrai. Que des bœufs, des bœufs et des moutons. C'est les seules catégories d'animaux qu'on a vu.
Pas vu nombre sur des...
Pourtant, je t'ai dit, on a fait presque 500 bornes entre Madrid et Séville. Je te promets, dans tous les champs, je ne voyais surtout que des bœufs. Hein, des veaux, des bœufs, des...
Mais beaucoup vous n'avez pas vu que dans chaque épicerie où vous vous arrêtez, ou chaque station de service, ça pend du jambon.
Ah, ouais, là, oui.
Je veux pas dire.
Là, je veux bien vous l'accorder.
Ça pend du jambon.
Effectivement. Hein? Effectivement. Il doit y avoir des porcheries dans les coins. Sauf que le porc, comme il est confiné dans la porcherie, ouais. On le voit pas sur d'accord. Le bord de l'autoroute. Alors que les champs où se promènent les... Tu vois, c'est ça la différence entre ce qui est halal, ce qui n'est pas halal. Comment tu peux manger de la chair d'un animal qui est constamment confiné dans la saleté, dans ses excréments, et à la fin, on va le faire sécher, on va manger. Mais c'est dingue. Je sais pas, moi, je trouve ça bizarre. Et le chien va dire, ah, c'est écœurant. Qu'est-ce qui est plus sale, un chien ou un porc? Il va dire le chien. Mais alors, pourquoi tu manges le porc et tu t'interdis le chien qui est plus propre? Je sais pas, c'est illogique. Bon, je sais pas.
Après, c'est culturel. Hein, bon.
Voilà. Bon. En Chine, par exemple, pas de problème avec le chien. Mais, tu sais que même en France, maintenant, on n'a plus de problème avec le chat. Bah, j'ai vu sur Internet les analyses de kebabs. Où est-ce que le gars, il dit la viande, elle est fraîche et tout, mais il y a un problème, c'est de la viande de chat. J'étais incroyable.
C'était dans quelle ville? Il faut lui faire de la
partout,
pub.
Partout, je te promets, là, aujourd'hui, les kebabs, puisque aujourd'hui.
Kebabs, c'est des fakes. C'est des fakes.
Hein,
c'est
pas possible. Je te promets que non. Non. Il y a vraiment du chien et du chat dans les kebabs. Bah, pas dans tous, mais dans beaucoup.
D'ailleurs, Maître Serram qui mange beaucoup de kebab après.
J'ai dû manger quelques chats.
Ouais.
Bon, c'est pas grave. Hein.
C'est pour ça que des fois, il a des petites des tics. Miaou.
C'est possible.
Il sort des petits tics comme ça. Des tocs.
Ouais. Ah ouais.
Mais alors, donc, c'était juste pour vous préciser, parce que moutonnaise.
L'os moutonnaise?
Ça n'existe pas.
Mais si, l'os moutonnaise.
En espagnol, on dit ovejas. Donc, il faut le savoir quand même, parce que l'os moutonnaise, voilà, quelqu'un qui vous écoute, et qui se trouve en Espagne, et qui voudrait un moutonnaise, c'est la probabilité faible.
Au moins, il comprenait ce que je voulais dire.
Mais l'espagnol ne comprendrait pas.
Non, il y a un mot chez les éleveurs qui est compris par tout le monde, c'est le mot mérinos.
Mérinos,
c'est la race supérieure des moutons, et c'est ce qui sera proposé pour les consommateurs musulmans de France à travers Allo Halal.
C'était les matelas. C'est
quoi, les matelas. Voilà.
Les matelas, tu sais, le gars,
c'est Mérinos. C'était en laine, Mérinos, en fait. C'était de la laine.
D'accord.
Voilà, l'imam va faire un business de laine, en fait. Donc mais cet hiver, il va vendre des pulls.
Non, des matelas.
Des matelas.
Des matelas, ouais. Philippe. Et je vais sauter dessus et je vais chanter la chanson.
Et vous avez prouvé que les matelas sont résistants.
Voilà, et voilà.
Parce que si vous sautez sur le matelas, moi, la
Mérinos. Machallah. Ah, c'était l'époque, hein. Ça n'existe plus, ça, maintenant.
Non, c'est terminé.
On voit un gars sauter sur un matelas et chanter Mérinos.
Ça existe toujours, ça vaut une blinde, hein.
Ah, tu parles du matelas, oui, bien sûr, le matelas existe, mais je parlais de la pub.
Non, bon, écoutez...
C'est important, un bon matelas. Enfin, bon, je ne sais pas si on est là pour ça, mais un bon matelas, c'est
quand les choses vous échappent, à un moment donné, Metzeran, et vous êtes bien placé pour le savoir, quand les choses vous échappent, vous ne savez pas où elles vont.
Ouais.
Voyez.
Ouais.
Mais déjà, le fait de vous ouvrir le micro, ça m'échappe.
Ouais. Ah bon, carrément, ouais. On en est là.
Non, il est bienvenu avec nous. J'aime bien... Ouais,
parce que vous ne savez pas ce qu'il va dire.
Non, mais de toute manière, vous êtes habillé de manière très colorée aujourd'hui.
Voilà, ça commence. Il attaque.
Non, mais je n'attaque pas. C'est ce que j'ai dit à Faudil. C'est très coloré. C'est bien.
Ouais, on fait de la radio, en fait. Donc, c'est pas fait
oui,
pour être
non,
vu.
Non, mais moi, je le vois quand même, puisque je suis avec vous, là.
C'est fait pour être vu. C'est voilà. C'est comme ça.
C'est non, vrai. Mais c'est bien. Il n'y a pas de critique dans ce que je suis en train de dire. Je dis que c'est bien. C'est très coloré. Voilà. Voilà.
Dit-il en riant. Est-ce que vous trouvez que c'est trop coloré?
Non, pas du tout. Ah, vous connaissez ma sobriété au niveau des couleurs.
Non, ouais, surtout Metzeran.
Voilà.
Bien, Imam Abdelali, nous allons reprendre le contrôle de cette émission et nous allons parler de l'immigration du prophète. Ça commence par quel événement, cette immigration?
Ça commence tout d'abord par un complot, tout simplement, qui est mis en place par Quraysh, par les notables de la Mecque, qui veulent tout simplement tuer d'une seule main le prophète avec la main et les épées d'un enfant ou d'un mercenaire, d'un assassin, d'un hashashin, comme on dit, hein, qui est membre de chaque tribu arabe, comme de manière à ce que le sang du prophète se répand sur la responsabilité de toutes les tribus arabes. Et comme ça, la tribu des Bani Hashim, c'est-à-dire la tribu du prophète, eh bien, ne pourra pas réclamer la vengeance contre l'assassin, parce qu'il n'y aura pas un assassin, mais 40 assassins. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont désigner 40 bonhommes, 40 mercenaires, qui vont, donc, une même nuit, décider d'aller assassiner le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme Dieu dit dans le Coran, Wallahu ya'asimuka minan nas, Dieu te protégera des gens, te préservera des gens. Eh bien, il va à ce moment-là lui annoncer qu'il faut maintenant qu'il quitte la Mecque parce que sa vie est en danger, sa vie est en péril. Hein, il y a ce complot qui a été mis en place par Quraysh. Il y en a même qui disent que c'est le diable lui-même qui est venu insuffler l'idée à ses Mécois de mettre en place cette stratégie machiavélique pour faire assassiner le prophète dans sa demeure lui-même et par ses 40 mercenaires qui le tueront d'un même coup de sabre. Et donc c'est comme ça que le prophète reçoit l'annonce de Jibril alayhi salam qu'il doit enfin partir et quitter la Mecque. Au moment où il le fait, il l'annonce à Sayyidina Abu Bakr, et là Sayyidina Abu Bakr est très très content de savoir que c'est lui qui va être son compagnon. Et le jour J, le prophète quitte sa demeure du côté de Marwa, comme on l'a déjà précisé, le nord-est de la Kaaba, de la mosquée sainte, à l'intérieur de la Mecque. Bien sûr, nous sommes toujours dans la Mecque. Il quitte donc le Marwa, il se dirige vers le Safa. Quand il arrive au Safa, il bifurque à droite, c'est-à-dire en direction de l'ouest, et en laissant la Kaaba sur sa droite et vers le nord, donc vers la maison de Abu Bakr, qui se trouve donc près de la montagne qu'on appelle la montagne de Omar, Jabal Omar. Jabal Omar, c'est là où habitait Omar, bien sûr, et c'est tout près de cette montagne où habitait Omar et la famille de Omar et la tribu des Banu Adi, les Banu Adi, que Abu Bakr Siddiq et la tribu des Banu Taym, puisque Sayyidina Abu Bakr, de son vrai nom Abdullah ibn Uthman, est issu de la tribu des Banu Taym, eh bien c'est là que le prophète va aller rejoindre son compagnon et il va trouver Abu Bakr qui l'attend avec sa monture à lui, donc son chameau et la chamelle du prophète que le prophète va surnommer Al-Qaswa. Et c'est sur cette chamelle-là que le prophète va quitter, non pas vers le nord, la nuit, on est la nuit, hein. Le prophète a quitté sa demeure, hein, il y avait les 40 mercenaires qui entouraient sa maison, mais que Dieu va descendre sur eux une forme de somnolence, une somnolence qui va les mettre dans un état vaporeux, comme on pourrait dire C'est pas vaporeux, non, ça c'est une mamounade, ça encore.
Non, vaporeux, non. Non.
Comment on dit, ils sont dans les vapes.
Ils sont dans les vapes. Voilà, ils sont dans les vapes.
Ils sont dans les vapes, ouais. C'est, voilà, une somnolence. Fils ou bête, comme on dit. Et pourquoi? Parce que Dieu, dans le Coran, va justement va nous révéler qu'il a mis en face d'eux un sorte de barrage virtuel, comme si qu'ils se retrouvaient dans une. Dans un monde virtuel, comme si qu'ils avaient des lunettes, ouais, comme tu sais, comme aujourd'hui on a des et le gars il vivait un autre monde, peut-être dans un sommeil, etc. Dans les vapes et le prophète va en profiter pour lui dans sa réalité réelle de mettre un peu de terre sur la tête de chacun d'entre eux pour qu'ils se rendent compte que le prophète s'il lui avait voulu il l'aurait tué. Alors qu'il est normal que quelqu'un qui veut te tuer que tu aies le droit toi aussi de le tuer. Mais le prophète bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure est un homme de miséricorde, il ne tuera personne, il mettra juste un peu de terre sur la tête de ses assaillants.
Poursuivant assaillant.
Alors, à partir de là, il quitte et c'est à ce moment-là qu'il récite le verset du Coran, wa ja'alna min bayni aydihim saddan aw suddan wa min khalfihim sadda fa arshaynahum fa hum la yubsirun. Hein, nous avons mis devant eux un barrage, et ainsi que derrière eux un barrage. Fa'arshaynahum, nous les avons enveloppés. Fa'hum la yabsurun, et ils ne verront rien du tout. Fa'hum la yabsurun, ils ne verront pas ce qui se passe devant eux dans la réalité. Donc il quitte sa demeure de Khadija, à côté du Marwa. Il rejoint, à côté de Jabal Omar, la demeure de Abu Bakr. Il monte sur sa chamelle, et au lieu d'aller vers le nord, que tout le monde pensait qu'il allait faire pour aller vers Médine, eh bien lui va se diriger vers le sud. Le sud, c'est là où il se trouve, la montagne de Thawr. C'est la direction de Arafat. C'est la direction des lieux saints de l'islam, plus tard, beaucoup plus tard. Mais c'est pas, on est avant Arafat. Arafat, c'est à 25 km. Là, on parle de 5-6 km seulement. Hein. Donc il va là-bas, il monte tout en haut de la montagne de Thawr. C'est une montagne qui est très, très, très. Très. Très, très haute, d'abord, elle est très haute.
D'accord.
Difficile à escalader, quoi. Surtout, on ne peut pas la monter à pied, à dos de chameau. On est obligé de descendre à pied. Donc, il va là-haut et il va se cacher dans la petite grotte qui est là-haut. C'est la montagne du Thawr, du taureau. Pourquoi on l'appelait la montagne du taureau? Tout simplement parce que tout en haut de cette montagne, il y avait des rochers qui formaient comme des cornes. Formaient de cornes. Là, aujourd'hui, elles ont été comment on appelle ça?
Érodés.
Ils ont été érodés. On voit pas tellement, c'est pas tellement évident que de constater les deux cornes. Mais il y avait à l'époque, bien deux cornes en roche qu'on avait l'impression de voir quand on était en bas de la montagne. Et donc, dans cette grotte-là, le prophète va se cacher avec Abu Bakr Siddiq. Il va y rester 3 jours. Et qui c'est qui viendra à chaque fois lui apporter de la nourriture? C'est la fille de Abu Bakr. Elle s'appelle Asma. Asma bint Abu Bakr va apporter de la nourriture qu'elle va mettre à l'intérieur de ses nattes. Elle va utiliser des nattes à elle, ses propres nattes, les nattes de ses cheveux. Et elle va utiliser pour sceller et pour attacher le tissu dans lequel elle aura mis la nourriture de son père et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et derrière elle, il y avait Amr ibn Fuhayra qui passait derrière elle pour effacer ses traces de pas. Avec quoi? Avec des moutons. On parlait de moutons mérinos, alors je ne sais pas si c'est des moutons mérinos. En tout cas, il y avait des moutons, de la bonne viande de mouton, qui venaient effacer les traces de Asma qui, tous les jours, venait et revenait. Pendant 3 jours, le prophète va être ravitaillé par Asma avec son père, le père de Asma, Asma bint Abi Bakr Siddiq, radiallahu anha. Et à un moment donné, les mercenaires, les chercheurs de primes, ils sont là, ils cherchent la tête du prophète mort ou vif, ils veulent l'attraper. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de monter quand même et d'escalader cette montagne. On n'a plus le temps, c'est l'heure de la pause.
Ouais, une petite pause s'impose, mais on continuera à escalader la montagne dans un instant, Imran Abdelali, puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h. Et vous avez bien compris que Maître Serhan est déjà là, puisqu'il est très sérieux, Maître Serhan, à partir de 11h. C'est tout droit avec Maître Serhan, très en avance. Mais il est très, très besogneux, Maître Serhan. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions juridiques tout à l'heure, au 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est comme les gosses, quand vous faites des compliments à vos enfants, faut faire très très attention. Faut voilà. Pas en complimenter l'un plus que l'autre.
Voilà, toujours faire...
C'est vrai en fait, hein.
L'égalité.
Ouais,
ouais.
J'ai eu le malheur de dire que Maître Serran était bien à l'heure.
Ouais. Voilà. Quoi, moi tout de suite je dis, est-ce que moi je suis arrivé mal à l'heure?
Ouais, exactement, voilà. Mal
c'est
à l'heure.
Ça. Franchement, c'est abusé ça.
Alors que vous étiez bien à l'heure aussi.
Voilà, voilà. Comme d'hab.
Ouais, ouais. Mais Maître Serran était bien à l'heure.
Moi, le ramadan, c'était 30 jours à l'heure. Lui, c'était 5 fois dans le mois à l'heure. Ou 4 fois.
Ouais, enfin, je suis à l'heure.
À l'heure. Chaque fois à l'heure.
Tel jour, je suis à l'heure.
Non, à l'heure. Mais 4 fois, alors que moi, c'est 30 fois.
Bah oui, mais je suis pas l'imam.
C'est vrai. C'est
vrai. Suis-je l'imam?
Non. Non.
Bon.
Voilà. C'est vrai. Très bien, bonne réponse.
Ouais, là, ça y est, là.
On sait pourquoi on fait appel à lui. Il y a des avocats.
C'est l'avocat.
Tu sais, l'éloquence.
Le plaidoyer. Ah, ouais. Le plaidoyeur.
C'est un métier. Hein,
ah, c'est un métier.
Bien, nous avons laissé tout à l'heure ceux qui pourchassent le prophète hein, au pied de la montagne. Mais le fait qu'il aurait mis de la terre sur la tête, ça les a pas dissuadés de renoncer à le pourchasser?
Bah non, c'était la haine. Il y a la haine qui surpasse tout. Hein. Et au contraire, ça leur a foutu encore plus la rage. Comment il a osé faire ça? Il nous a humiliés. C'était humiliant pour eux. C'était une humiliation. Donc l'humiliation engendre encore plus de rage et puis il y a l'aveuglement de la haine. La haine, c'est aveuglant. Hein. Comme on dit, l'amour est aveugle, mais aussi la haine est aveugle. Hein. Encore plus aveuglante que l'amour. Elle fait encore plus de dégâts.
Ouais, c'est ouais,
et malheureusement, c'est
ça. En tout cas, c'est puissant la haine comme moteur.
Ah, ça c'est clair.
Ouais, c'est souvent, un moteur très très puissant.
C'est ce qu'a fait les moulas en Iran hein, quand ils ont mis en place la révolution iranienne. C'était d'abord fondé sur la haine et sur la vengeance contre des personnages que le fameux charlatan Khomeini là, et il avait décidé, celui-là c'est un traître, allez-y, et ils allaient le lyncher ensemble. C'est-à-dire, c'était pas un jugement, la police, tu vois, dans les règles de l'art. Non. C'était la population qu'on alimentait et que l'on mettait en total. Et voilà. Et c'est eux qui allaient lyncher la personne que le Khomeini, comme par exemple Salman Rushdie. Salman Rushdie, bon, c'est sûr, peut-être, je sais pas. En tout cas, certains, ils ne méritaient pas cette sentence, puisque là, ils parlent de fatwa. Ce mot-là a été galvaudé, a été dévoyé de son sens d'origine, puisqu'une fatwa, c'est un avis religieux, et non pas un arrêt de mort, un arrêté de mort ou un arrêté de lynchage. Eh bien, c'est tout simplement inadmissible que l'on puisse utiliser la haine pour réussir à...
Oui, pour galvaniser.
Galvaniser
voilà.
Et notamment se faire vénérer par les gens. Hein. C'est comme ça qu'a fait... Et puis plein de personnalités iraniennes, même des membres du gouvernement qui n'étaient pas d'accord avec tout ce qui se faisait. Dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec lui, c'était tout de suite sentence lynchage. C'était la sentence lynchage. C'était pas l'armée ou la police qui venait embarquer le gars, c'était la population qui allait caillasser, lapider le gars à mort. Voilà, c'est de la sauvagerie.
Tribunal public.
Voilà, la sauvagerie.
Alors, le prophète, lui, est dans la grotte, Imam Abdelali.
Il est dans la grotte, il est serein, il est calme, il sait que Dieu le protège. Mais celui qui est avec lui, lui, au contraire, il est beaucoup plus affligé, beaucoup plus peiné, paniqué. Ce qui fait que Dieu est obligé de révéler aux gens... révéler aux hommes l'histoire de ce qui va se passer dans la grotte, dans l'état psychologique dans lequel est Abou Bakr Siddiq, et comment le prophète va soulager et apaiser le cœur de son compagnon Abou Bakr Siddiq. Puisqu'il dira dans le verset Thani athnaini idh huma fil ghar, l'un des deux alors qu'ils sont dans la grotte dira à son compagnon, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ne sois pas triste, ne sois pas peiné, dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abou Bakr, inna Allah ma'ana, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Cette phrase qui est d'une puissance extraordinaire et qui permet, malgré l'adversité, malgré le fait que la situation soit particulièrement affligeante et désespérée, de garder de l'espoir. Et c'est ce que le prophète avait. Il avait l'espoir parce qu'il savait de qui il s'agit. Il parlait d'un Dieu qu'il avait même rendu visite hein, lors de l'ascension. Le prophète a, lors de l'ascension, découvert quelle était la puissance de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il comprend qu'il sera protégé, lui et son compagnon, et qu'il leur arrivera rien. Et c'est effectivement, les éclaireurs, les fameux chasseurs de primes arrivent devant la grotte et Allah Azza wa Jal fait en sorte que des anges se mettent devant la grotte, et quand ils essayent de voir ce qu'il y a dans la grotte, ils n'y verront rien du tout, ils ne verront comme si que la grotte était vide. Puisque dans le Coran, Dieu nous dira qu'il a envoyé des soldats invisibles. Et non pas, comme la légende le dit, malheureusement, je suis désolé de le dire, hein, qui raconte que devant la grotte, il y avait une toile d'araignée qui a été tissée et un nid d'oiseau qui s'est installé, tout ça. Ce sont des légendes purement inventées, puisque dans le Bukhari, dans le hadith, dans l'authentique du Bukhari, ce sont les ailes d'un ange que Dieu a mis devant l'entrée de la grotte qui ont dissimuler la présence du prophète et de son compagnon. Et non pas ces créatures de Dieu qui sont de la nature, que sont la toile d'araignée et le nid d'oiseau. Tout simplement parce que le Coran, en plus, le contredit. Il dit « Arsalna junudan lam tarawha ». Nous avons envoyé des créatures que tu ne pouvais voir. Donc déjà, « pouvais voir ».« Lam tarawha », tu ne pouvais pas voir. C'est impossible de voir. Alors comment ça? Il y a une étoile d'araignée, je la vois. Un nid d'oiseau, on le voit. Donc déjà, ça contredit le Coran. Donc on ne peut pas avoir une légende, une histoire qui va contredire la parole de Dieu ou qui va être différente de la version du Coran. Donc il faut que ça soit une version. Et dans le Bukhari, justement, la version, c'est que Dieu a envoyé un ange qu'on ne voyait pas mettre son aile devant la porte, devant l'entrée, et qui a empêché aux chasseurs de primes de voir le prophète à l'intérieur de la grotte. Donc voilà, ensuite les chasseurs repartent et le prophète, un jour plus tard, quitte la grotte et décide enfin, avec son guide, là le guide arrive, il s'appelle Abdullah ibn Arqat ou Uraiqat, eh bien, va guider le prophète et son compagnon vers l'ouest, direction la mer Rouge. En arabe, on l'appelle Al-Qalzem. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, qu'on ne dit pas le Bahr al-Ahmar. On ne se traduit pas en arabe la mer Rouge, Bahr al-Ahmar. Non, c'est Al-Qalzem. Bahr al-Qalzem, c'est le nom de la mer Rouge en arabe. Et donc, il va vers la mer, mais il ne va pas jusqu'à la mer, mais c'est en direction de la mer, puisque entre la Mecque et la mer, il y a plus de 80 kilomètres. Donc, il y a encore du chemin. Donc il va vers Jeddah en gros et il fait le tour. Ensuite, quand il voit qu'il est assez loin de la Mecque, il remonte vers le nord. Il commence à faire son chemin vers le nord. Et sur le chemin, il va arriver dans la maison d'une femme qui s'appelle Ummu Ma'bad. Et nous avons la semaine prochaine, Inch'Allah, tout un récit, toute une version, toute une série, tout un feuilleton de l'arrêt de cette pause du prophète lors de sa hijra dans la maison de Ummu Ma'bad, qui était donc une histoire assez particulière qui mérite toute son attention, et on verra ça inchallah la semaine prochaine.
Est-ce qu'on a le temps pour la question d'un enfant qui vous demande, Imam Abdelali, pourquoi est-ce qu'on prie 5 fois par jour?
Alors, 5 fois par jour, d'abord, c'est d'abord 5 horaires, c'est pas 5 prières d'abord, c'est d'abord 5 moments, c'est 5 temps, 5 plages horaires où dans lequel le croyant va avoir un rendez-vous avec Dieu. Il va avoir une relation intime avec Dieu. Tout simplement parce que quand on étudie le dogme, il existe, tu sais, en France, une grande majorité de citoyens, même des musulmans, hein, ça existe chez les musulmans aussi, des gens qui disent « moi je crois en Dieu, je crois à la puissance du Créateur, mais je ne vois pas l'intérêt de l'adorer ». Donc il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne. Pourquoi? Parce que Dieu n'en a pas besoin. Pourquoi prier si Dieu n'en a pas besoin? Pourquoi jeûner si Dieu n'en a pas besoin? Et moi je pense aussi ne pas en avoir besoin. Pourquoi donc vais-je le faire? Eh bien, c'est ce qui va faire le discernement entre un musulman et un déiste. Un déiste, c'est quelqu'un qui dit « moi je crois en Dieu », mais il est agnostique. C'est-à-dire qu'il dit « Dieu existe, mais il n'y a pas de gnose », c'est-à-dire de liaison entre l'homme et Dieu. C'est ça la gnose. Qui est un terme chrétien et qui peut exister aussi, qui peut être utilisé pour l'islam. Ce sont des gens qui disent « moi, je n'ai pas besoin d'avoir de lien avec mon créateur, ni de prière, ni rien du tout ». Eh bien, cette gnose, ce lien spirituel, eh bien, il est indispensable chez les musulmans. Et c'est le deuxième pilier de la foi. Pas de la foi, mais de l'unicité. Puisqu'il y a 3 piliers de l'unicité. Le premier pilier, c'est le fait de croire en Dieu en tant que créateur. C'est l'action du créateur sur la création, qui crée et qui gère sa création, et qui à chaque instant décide du changement de ce qui se passe dans sa création. C'est l'action du créateur vers une action descendante du créateur très haut vers la création d'ici bas. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie qu'on appelle l'unicité de la divinité. Tawhid al-Uluhiyya. Après la Tawhid al-Rububiyya, vous avez Tawhid al-Uluhiyya. C'est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, nous demande que nous aussi, nous ayons cette interactivité, cet échange, ce lien, cette liaison, bah, qu'on appelle salat, puisque le mot salat vient du mot sila. Parce que traduire le mot salat par prière, c'est faux. C'est liaison. Il y a 5 liaisons par jour, et non pas 5 prières. Parce que le mot prière, ça veut dire prier, qui veut dire implorer, qui veut dire supplier. Supplier, ça veut dire, ça vient du mot de supplication, de demande. On demande à Dieu quelque chose. Mais la prière, ce n'est pas que des demandes. Une prière, c'est un office. Avec un rituel dans lequel, quand on est debout, on dit Allahu Akbar, on se récite la Fatiha, on récite une sourate, on s'incline, on dit des glorifications dans l'inclinaison, on se relève en louant Dieu, ensuite on se prosterne en chantant la puissance et la grandeur de Dieu, Allahu Akbar, etc. Et ainsi de suite pour terminer une raka'a, et à la fin on va en faire 2 ou 3 ou 4 raka'a pour les prières obligatoires. Donc ce lien là cette gnose, cette liaison spirituelle, est une nécessité et un besoin pour l'âme. C'est là l'utilité de cette prière. C'est qu'on prie Dieu 5 fois par jour pour justement nourrir cette âme qui a besoin de nourriture. Comme toi, tu t'autorises 3 repas par jour, voire même 4 fois si on ajoute le goûter. Eh bien, ton âme aussi, elle a besoin de nourriture. Et elle en a même plus besoin que ton corps. Et donc, il faut la nourrir par cette prière, par ces 5 liaisons. Relation que l'homme il a avec Dieu en accomplissant ses 5 prières quotidiennes. Alors, donc c'est un don et non pas un devoir ou une tâche ou un fardeau ou une épreuve. La prière n'est pas, c'est un plaisir. Voilà ce que je voulais dire.
Bien, merci Imam Abdelali, l'islam au présent. C'est samedi prochain, dans un instant, Maître Serhan sera là, il est déjà là d'ailleurs. Vous avez toutes vos questions juridiques au 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.